C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. À Canalem, épisode 74. Au sommaire, fait un homme de toi, une série de balados touchantes sur les thérapies de conversion. On reçoit l'animateur Jocelyn Lebeau. L'hépatite C est toujours et encore un fléau dans nos communautés avec Gengis Grenier à sa chronique santé aux petits soins. Un film, une tournée aux Pays-Bas pour la performance Sisyphe de Victor Pilon et à la chronique Lire, c'est queer avec Brian Saint-Louis, trois titres qui parlent de fluidité. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 29 avril 2024, tout est fluide ici et facile à comprendre, ben du moins, on l'espère.
Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bonjour tout le monde. Je ne fais pas ça souvent, mais je crois que ça va être essentiel de le faire aujourd'hui, étant donné le sujet de notre première entrevue. On y aborde des thématiques qui peuvent être difficiles pour plusieurs de nos éditeurs, auditeurs, auditrices ou auditorices. Alors, Canal M préfère vous avertir. Et si pendant ou après avoir écouté cette entrevue, vous sentez que vous avez besoin de soutien, vous composez le 988 partout au Canada. On parle des thérapies de conversion. En fait, je fais le même trauma avertissement qu'on fait lorsqu'on commence à écouter cette série de balados. Ce n'est pas un concept ou l'apanage uniquement des États-Unis ultra-religieux, là, très profond, ni à un passé lointain. Les thérapies de conversion, ben, c'est bel et bien de la torture, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, et cette torture anti-queer existe encore au Québec et au Canada, même si c'est illégal. Jocelyn Lebeau anime une série de balados « Fais un homme de toi » disponible gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada. Bienvenue à l'émission, Jocelyn.
Merci de l'invitation.
Et puis, comme à chaque fois qu'on reçoit un nouvel invité, on lui demande quel accord et quel pronom on utilise avec
toi. Vous pouvez dire « il » et utiliser le masculin sans problème.
Alors, dans quelle mesure les thérapies de conversion, rentrons dans le sujet.
On y va.
C'est dommageable.
En fait, ça cause beaucoup de tort. Donc, ces tentatives de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de quelqu'un, vous l'avez dit, c'est considéré comme une torture. Et quand on a rencontré plusieurs intervenants pour la série, il y a Martin Blais qui dit qu'une thérapie de conversion, c'est une entreprise de destruction massive de l'identité, de l'estime de soi. Donc, ça crée une haine de soi si grande qui peut nous rester à l'intérieur pendant des années. Donc, au Canada, c'est prouvé, il y a eu des thérapies de conversion. Il y en aurait même encore, même si c'est illégal depuis janvier 2000.
On peut toujours le faire sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sur Internet, dans le dark web, etc. Hein?
Exactement. Puis maintenant, même avec la pandémie, on a vu vraiment l'essor des vidéoconférences. Donc, c'est assez facile de se brancher avec des spécialistes un peu partout sur la planète. Donc, ces thérapies-là, elles causent effectivement des torts. Il faut savoir que la moitié d'entre elles sont faites chez des moins de 18 ans. Donc, à l'adolescence, à un moment où on est en train de se définir, de se construire soi-même. Donc, hausse de l'anxiété, hausse des problèmes sociaux. Ça peut être également un impact sur le parcours scolaire et ensuite sur le parcours socio-professionnel. Et on l'a remarqué, les études le démontrent, une hausse des tentatives de suicide, des idées suicidaires. Donc, il y a probablement des gens aujourd'hui qui ne sont malheureusement pas là pour raconter leur expérience de thérapie de conversion parce qu'elles se sont enlevées la vie.
Bien, comme j'ai dit, c'est une série de balados que j'ai trouvé confrontante, que j'ai trouvé difficile à écouter. Non pas que c'était pas bien fait, mais j'ai pas fait une écoute de ce qu'on appelle le binge listening, là, mais pas du tout.
Oui, l'écouter en rafale, c'était plutôt difficile. Cela dit, je suis assez étonné parce que la série est sortie depuis 3 semaines maintenant et oui. Il m'arrive une affaire qui m'était jamais arrivée jusqu'à aujourd'hui pour tous les projets que j'ai faits. Je reçois tellement de commentaires, tellement de témoignages de gens qui me racontent leurs histoires.
Tout à fait.
Et ça me touche énormément. Et il y a des gens, oui, qui l'ont écouté d'une traite, la série.
Oui.
Donc, on peut le faire, mais effectivement, quand on est directement touché par ces réalités-là, puis il faut dire que quand on parle de thérapie de conversion, on parle de beaucoup de choses, hein, parce qu'on parle d'acceptation de soi, on parle de religion, de spiritualité, on parle du vivre ensemble, on parle de l'identité. Toutes ces questions-là, elles touchent tous les êtres humains qui sont à l'écoute.
Tout à fait. Alors, pourquoi j'ai fait un trauma avertissement à tout le monde avant? Vous allez voir pourquoi. Ces thérapies ont eu plusieurs formes, ou ont encore plusieurs formes.
Oui.
Alors, assoyez-vous tout le monde. J'en cite des exorcismes. Oui. Si on en parle ouvertement dans ces balados.
Oui, on rencontre Gabriel qui en a eu 3 exorcismes, dont 2 de son propre choix.
C'est incroyable. On parle de lobotomie, de greffe de testicules d'hommes hétéros, de castration, d'électrochocs, de viol collectif, rien de moins. Jocelyn, comment t'as fait?
Honnêtement, ça a été difficile pour moi aussi de plonger dans ces sujets-là. Mais je vais vous avouer que j'en sors énormément grandi. Vous dites que l'écoute a été quand même assez difficile ou confrontante.
Oui.
Je suis d'accord, ça peut l'être. Mais il y a aussi beaucoup de lumière dans la série.
Tout à fait, c'est vrai.
Parce que ce sont des parcours d'acceptation de soi. Donc, d'entendre par quel chemin sont passées plusieurs personnes, ça permet de peut-être se reconnaître, mais aussi de faire un cheminement intérieur, je pense. Donc moi, ça m'a fait énormément réfléchir par rapport à ma propre histoire. Je tiens à le dire, j'ai pas suivi, moi, de thérapie de conversion, j'en ai pas subi, mais à l'adolescence, si on m'en avait proposé, j'aurais été un excellent candidat si j'avais peut-être baigné dans un groupe très religieux, par exemple, parce que... je me sentais tellement mal d'être homosexuel à ce moment-là de ma vie. Et la principale raison, c'est qu'autour de moi, j'en connaissais aucun. Il n'y avait personne dans mon entourage, dans ma famille, dans mon école secondaire, même si j'allais dans une polyvalente de 2500 étudiants sur la rive sud de Montréal. Il n'y avait personne qui s'affichait publiquement. Il n'y avait aucun modèle de réussite ouvertement gay autour de moi. Donc, quand je commence à me sentir attiré par les autres gars autour de moi, je me dis... Ben, qu'est-ce que ça va être ma vie?
Ouais.
Et par ailleurs, je suis vraiment pas le seul. Il y a tellement de gens qui m'ont raconté ces histoires-là, parce que je le dis dans la série, j'ai vécu un épisode principalement d'intimidation secondaire où je marche tout simplement pour aller au local du journal étudiant. Et pendant que je marche dans le corridor, il y a un groupe de gars plus âgés qui m'attrapent par en arrière. J'avais une salopette à l'époque et puis qui me tirent dans la salle de bain. Et puis qui me traitent de nom que j'ai pas envie de répéter ici aujourd'hui, mais je savais que je voulais... pas être ça parce que ça pouvait m'attirer des ennuis. Et à ce moment-là, on n'en parlait pas. Je remercie le ciel parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de modèles publics. On en parle ouvertement. Il y a des émissions de radio comme ici qui abordent ces questions-là. Et je pense que les choses sont en train de changer pour le mieux, mais il faut continuer la bataille.
En tout cas, s'il y avait eu une pilule, moi aussi, je l'aurais prise.
Oui, pour être hétérosexuel.
Ouais,
hein?
Tout ouais. à fait. Alors, comment ça se fait qu'on parle de thérapie de conversion, mais on en sait si peu? Là-dessus.
C'est un sujet qui est très tabou. On rencontre Olivier Ferlat au début du deuxième oui. épisode, qui est un des chercheurs qui a participé à cette grande étude pancanadienne qu'il y a eu sur le sujet. Il disait, dans les communautés, c'est un sujet qui n'est pas abordé. On n'ose pas, peut-être parce qu'il y a des gens qui ont honte même d'avoir subi ça, d'avoir vécu ça. Par contre, cette étude-là, savez-vous quoi? Elle a réussi à démontrer qu'il y avait près de 10 % des communautés LGBTQ+ au Canada. On parle de près de 100 000 personnes qui auraient vécu au cours de leur vie des pratiques de conversion. Et ça fait du monde à la messe, ça, là.
On entend beaucoup parler dans tout ça de la religion. Est-ce que, surtout par les personnes qui ont été interviewées, c'est quoi la place de la religion dans tout ça?
Bien, les thérapies de conversion se sont passées vraiment dans deux domaines en particulier. Oui. Oui, il y a eu le domaine médical, parce que si on raconte l'histoire récente quand même des luttes LGBTQ+, c'était l'homosexualité, une maladie mentale selon l'OMS jusqu'au 10 mai 1990. Donc, ça fait quand même 34 ans, là. Ça fait pas si longtemps que ça.
Ça fait juste 34 ans que je suis malade mentale.
Non, mais c'est terrible à dire. Puis ouais. pour les identités trans, c'est 2019, ça fait 5 ans. Alors, c'est sûr que dans le milieu de la santé, il y a eu des tentatives, je pense, bienveillantes de certains professionnels de tenter de guérir, je le mets vraiment en guillemets, l'homosexualité ou la transidentité de certaines personnes. Maintenant, on sait que ça ne fonctionne pas parce que ça a été tellement essayé qu'on sait que ça a plus de dommages que de bienfaits. Je reviens à votre question sur la religion. Bien, il y a plusieurs personnes qui perçoivent l'homosexualité comme un démon, par exemple, que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Si, dans votre conception religieuse, quand vous avez ce démon-là à l'intérieur de vous, ça va vous mener à votre mort en enfer, brûlé pour l'éternité, et que c'est une conviction profonde que vous avez à l'intérieur de vous, je peux comprendre que vous avez envie de tenter de changer.
Oui.
Parce que c'est une pression si grande et une peur si immense que c'est sûr que ça peut amener ce genre de désir-là de changement. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas religieux, mais il y a beaucoup de gens à travers le pays, et c'est pas seulement la chrétienté, il y a beaucoup de religions qui ne voient pas l'homosexualité ou la transidentité de la même façon que nous, on peut la percevoir. Donc, ils peuvent tenter de proposer, encore aujourd'hui, cette thérapie, et je le mets vraiment en guillemets, de conversion, parce que même si ça s'appelle comme ça, il n'y a rien de thérapeutique là-dedans.
Alors, on vient de le dire, c'est démontré. Même le groupe de thérapie de conversion, qui s'appelait Exodus, qui n'existe plus maintenant, on l'a admis, ça ne marche pas, les thérapies de conversion.
Et pire encore, en fait, les gars qui étaient à la tête de cette organisation-là, après avoir tenté de changer des dizaines de milliers d'hommes, ont assumé que ça ne fonctionnait pas et ont fait leur coming out. Ils sont sortis du placard, les gars qui étaient à la tête d'Exodus.
Alors, pourquoi donner une tribune à quelqu'un comme Georges Bruchemi, qui nie des faits avérés, notamment sur les dommages causés par les thérapies de conversion, et qui, même, moi, je vais très loin, ben, on est pas mal dans les réalités et les vérités alternatives. Alors, pourquoi il donnait un droit de parole à une tribune comme ça?
Il reconnaît lui-même que des fois, certaines de ses positions sont proches du conspirationnisme. Je vais vous dire, avec Philippe Marois, le réalisateur de la série, Jean-Philippe Roux qui a fait la recherche, nous, notre idée, c'était vraiment de mettre de l'avant différentes facettes autour des thérapies de conversion. Donc, si on veut demander aux gens d'écouter nos réalités à nous qui avons vécu ces thérapies-là, je pense que c'était important comme travail de démarche de découvrir aussi ce que d'autres personnes peuvent penser et pourquoi elles pensent comme ça. Donc, Georges Bouchemi a une perception qui est différente de la mienne autour du fait que, justement, c'est une croix à porter l'homosexualité et que si on la combat, cette croix-là, parce qu'on a tous des croix, ça peut être différentes sortes de croix, l'homosexualité en est une, eh bien, peut-être que quand on arrivera au jugement dernier, on pourra quand même aller au paradis. Donc, il a admis publiquement qu'il était pour les thérapies de conversion. Je vous avoue que moi, j'avais très peur de le rencontrer au départ parce que c'est confrontant de s'asseoir devant quelqu'un qui n'a pas la même vision du monde que nous. Cela dit, je veux qu'on vive dans une société où on est capable d'échanger avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Et moi, j'ai grandi à travers cette entrevue-là. On s'est parlé comme deux adultes responsables et respectueux. On était capable d'échanger même si nos visions ne sont pas les mêmes. Et aussi, on a fait notre travail également. Certains des propos qui étaient avancés n'étaient pas exact selon les données scientifiques dont on dispose en ce moment. Donc, ça nous permettait aussi de rectifier les faits.
Vous avez replacé le contexte. Oui, et c'est là, je pense que c'est très radio-canadien, puis ça fait du bien d'entendre ça.
Et d'autant qu'il y a plusieurs personnes qui pensent comme M. Bouchemi et qui peuvent aussi se reconnaître à l'écoute. Donc, ça permet justement d'engager le dialogue entre tout le monde.
J'aimerais parler d'un autre personnage, il s'appelle André, qui affirme désormais, c'est une personne homosexuelle, puis qui affirme présentement être capable de vivre sa vie hétéro grâce à Dieu et tout ça.
Oui.
Comment ça a été cette entrevue-là aussi?
Ça aussi, c'est une rencontre qui m'a quand même troublé. André, il dit qu'il y a deux loups en lui, le loup de la tête et le loup du cœur. Le loup de la tête, c'est celui de ses pulsions, de ses désirs homosexuels qui n'ont jamais été consommés dans la vie réelle. C'est resté vraiment à l'ordre des fantasmes et des idées. Et il y a sa pulsion du cœur et il a décidé, lui, de donner tout son cœur à Dieu. Donc aujourd'hui, il est père de deux enfants, il est marié et Dieu lui a dit « tu auras une femme ». Et je vais vous dire un truc, je m'attendais à rencontrer quelqu'un qui était très mal dans sa peau. Il est très bien dans sa peau, honnêtement. Il parle avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et encore une fois, c'est une autre réalité par rapport à ça. Il n'a pas subi de thérapie de conversion.
Non.
Il se positionne contre les thérapies de conversion d'ailleurs. Mais lui, sa façon de vivre avec son homosexualité, ses désirs, c'est de choisir d'écouter Dieu.
De toute façon, il y a beaucoup de personnes bi-plus ou poly-plus qui sont capables de vivre une certaine fluidité sexuelle et romantique.
Tout à fait.
Il nous reste une petite minute, alors allons-y. On peut trouver la balado où, quand, comment?
Alors, fais un homme de toi.
Oui.
C'est sur les thérapies de conversion. C'est disponible gratuitement sur l'application Radio-Canada Audio. On parle de 7 épisodes. C'est près de 5 heures, en fait, où on rencontre une vingtaine de personnes qui nous racontent leur vécu d'un océan à l'autre du pays. Honnêtement, depuis que c'est sorti, je salue tout le monde qui nous écrivent et nous racontent leurs histoires. Je sens que ça fait écho chez plusieurs personnes. Alors, si jamais vous l'écoutez, ne vous gênez pas pour me faire part de vos commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Donc, c'est « Fais un homme de toi » sur Radio-Canada Audio.
De toute façon, Jocelyn Leboux, c'est vraiment une personne parlable. On vient de s'en rendre compte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Aux petits soins.
Attention, code rouge.
Avec Gengis Grenier.
Allô, Gengis.
Bonsoir, Denis Martin, comment ça va?
Ça va bien.
J'ai encore un petit peu d'émotion dans la gorge à écouter ta dernière entrevue, c'est venu me chercher un petit peu. C'est
ben, veux-tu, je pense qu'on va se prendre un petit 2 minutes, si tu veux, on va en parler, parce que tu as vécu, toi, peut-être pas une thérapie de conversion, mais tu as vécu de l'intimidation dans ta vie, ça a été difficile.
Oui, ça a été difficile, puis je m'attendais pas à le réentendre d'une personne encore plus jeune, puis sur un sujet encore plus lourd, parce que j'ai pas vécu la thérapie de séroconversion, mais une personne adulte, quand même, qui est en position d'autorité sur moi, je m'en souviens encore, m'a amené voir comment qu'on appelle ça, les personnes qui manipulent les huiles essentielles, là, c'est un...
Les homéopathes?
Homéopathes, exactement, Denis Martin, pour me guérir.
Est-ce qu'il y a une huile qui guérit l'homosexualité?
Il y a pas d'huile qui guérit l'homosexualité, ou du moins le venin de serpent est inefficace.
Non, mais cela dit, moi aussi, c'est un peu ce que je disais au départ, j'ai vécu beaucoup d'intimidation dans ma jeunesse. Effectivement, quand j'ai écouté cette... Même si j'ai pas, moi non plus, subi de thérapie de conversion, ça m'a confronté. Alors, on va se le dire. C'était pas le sujet de... Mais comme on est en direct, même pour les gens qui nous écoutent en différé, comme on est en direct, puis Genghis était dans le studio, ça l'a confronté pas mal.
Ben oui, un petit peu dérangé, là, je suis désolé tout le monde.
C'est correct. On va aller à notre sujet, donc, aujourd'hui, on parle des hépatites. Alors, c'est quoi une hépatite?
Les hépatites est une très grande famille de virus, Denis Martin. Il y en a plusieurs. Il y a l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, D, E, F, et on s'arrête à G.
C'est presque rendu comme 2LGBTQIA+.
Oui, non. Ouais. C'est ça. Fait que c'est une famille d'à peu près 7 virus qui ont été identifiés, dans le fond, par la population médicale de cette planète. Il y en a plusieurs qui peuvent avoir une guérison spontanée. D'autres, ils se transmettent pas tous de la même façon non plus. Fait que une famille de virus qui attaquent le foie. Notre organe vital qui est situé dans notre cage thoracique, du côté droit, là, partiellement en dessous de nos côtes du côté droit. Le foie est un organe vital très important qui métabolise le sucre, les vitamines, les protéines de coagulation, nos matières grasses, les triglycérides, le cholestérol. Il y a beaucoup de choses qui passent par le foie. Ça convertit aussi l'urée, l'ammoniac. Ça a beaucoup de fonctions. Puis quand un virus s'attaque, dans le fond, à cet organe vitaux-là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, dont une mort dans 15 à 20 ans là, après une infection là, d'une de ces 7 catégories, un des 7 membres de cette grande famille de virus.
Mais ça, c'est le pire des cas. Mais entre ça, il y a ce qu'on appelle la fameuse jaunisse.
Ah oui, les symptômes, mon Dieu. Quand on est malade d'une hépatite C, quand on contracte une hépatite C, on se sent pas bien, on a des nausées, vomissements, puis la jaunisse, là, soit l'ictère de la tête aux pieds, ou ce que les gens qui arrivent des fois dans mon bureau puis qui sont jaunes citron, je les surnomme mes petits poussins d'amour. Les gens peuvent faire une jaunisse quand il y a une affectation qui attaque le foie comme ça. Dans le fond, il y a une altération dans la conjugaison et l'élimination de la bilirubine, la bilirubine est mal conjugué, tout ça, fait que ça s'accumule dans les tissus cutanés qui donne un aspect jaunâtre à l'être humain.
Bon, on a parlé que ça s'attrape de plusieurs façons. Lesquelles?
On parle de toutes les hépatites en général.
On va aller à l'hépatite éventuellement qui se transmet par...
Parce qu'on va reparler de sexe ensemble aujourd'hui.
On parle
Martin.
Toujours de sexe, okay, toi et moi.
C'est bon, tu me rassures.
Mais donc, il y a plusieurs façons de l'attraper, effectivement.
Oui, bon, pour l'hépatite A et l'hépatite E, c'est très vulgaire ce que je vais vous dire, mais après avoir été à la salle de bain, après avoir fait des soins d'hygiène poste numéro 2, disons, après avoir déféqué, après avoir fait caca, on se lave pas les mains, puis qu'après nos mains vont toucher à plusieurs choses, bon, mais c'est des bonnes portes de transmission pour l'hépatite A et l'hépatite E. C'est pour ça que c'est très recensé dans les pays du corps-monde, que les infrastructures sanitaires sont déficientes. Fait que pour l'hépatite A, l'hépatite E, c'est surtout comme ça. L'hépatite B, que sa petite sœur aussi qui la suit souvent, l'hépatite D. Ouais. Dans le fond, ça, c'est vraiment par voie sexuelle, rapport sexuel non protégé, quelques rares cas par
on
par
parle
la
non
salive.
Protégé dans le genre pas de
préservation. Des pénétrations pénis-vagin, pénis-anus, pénis-bouche sans condom.
Okay.
C'est plus clair comme ça, Denis Martin.
Il n'y a pas de problème ici. On dit les vraies choses.
J'aime ça. Comme ça, il faut qu'on s'installe des posters tout autour de nous. Ouais. Donc, les relations sexuelles l'ont protégé surtout. Puis, il y a des cas de transmission par salive aussi pour l'hépatite B. Quelques possiblement rares cas de où ce que des gens pourraient manger des fois dans des restaurants, où ce que la vaisselle serait vraiment mal lavée, soit contaminé ou mal désinfecté, puis que les gens réutilisent tout le temps la même vaisselle soit dans des restaurants de pays pauvres, désolé de le dire comme ça. Il y a quelques fragments de littérature qui en font référence, mais c'est vraiment pas quelque chose de généralisé pour l'hépatite B. L'hépatite C, elle, comme l'hépatite G, se transmet par sang à sang. Ah. Soit on parle dans la littérature récente, là, restons un peu dans notre genre de pays, soit par, on parle de relations sexuelles violentes, on peut parler de viol, on peut parler de relations sexuelles consentantes sadomasochistes, où ce que les deux partenaires doivent saigner littéralement pour qu'il y ait un contact sans sang. Par relation sexuelle, c'est même documenté étant pas si courant, que c'est vraiment, vraiment un contact sans sang pour l'hépatite C et l'hépatite G.
Oui, et on peut le dire, il y a certaines pénétrations qu'on appelle la pénétration par le point qui fait partie du risque.
Qui fait partie du risque, c'est quand je parlais de relations un peu sadomasochistes. Ouais. Là, je vais me faire tirer des pierres aujourd'hui en disant que le fisting ne fait pas partie de cette catégorie, mais c'est un peu considéré comme violent par certains sexologues où ce que les gens visiblement ont accès à la pornographie sur Internet. Il en va de soi que des êtres humains, lors de leur relation sexuelle, peuvent insérer leur poing ou leur pied à l'intérieur d'orifices de partenaires avec lesquels ils ont des rapports sexuels. Oui, ça en fait partie. C'est sûr qu'un poing, un pied...
Pas dans le nez, quand même.
Non, pas dans le nez, dans les oreilles, disons ça comme ça. Disons plus les orifices vagin, anus ou rectum, soit les orifices les plus courants, peuvent provoquer plus facilement des traumas de la muqueuse, saignements. Si une personne comme moi se ronge un petit peu les ongles pour avoir des saignements un petit peu au niveau des cuticules...
Ça n'en prend pas beaucoup, hein?
Ça n'en prend pas beaucoup. Une petite goutte de sang de chaque côté, il suffit juste d'un petit échange sanguin pour qu'il y ait une contamination à l'hépatite C.
Bon, parlons de cette hépatite C, parce que c'est une hépatite dont on a beaucoup entendu parler, notamment avec le scandale du sang contaminé. Cette hépatite-là, pendant longtemps, elle était très difficile à traiter. Est-ce que ça se traite maintenant?
Oui, depuis bientôt une dizaine d'années, les traitements se sont raffinés. Je te dirais, Denis Martin, dans les 5 à 8 dernières années, les traitements se sont raffinés. Donc, il y a plusieurs traitements. Je pourrais en nommer plusieurs comme Epclusa, Technivy, Maviret, par exemple, sont des exemples de traitements curatifs à l'hépatite C. Ça fonctionne quand même dans 95% des cas, des personnes qui essaient le traitement curatif. Fait qu'en moins de 3 mois, plus ou moins 3 mois, les gens vont se guérir, vraiment une rémission totale et complète de l'hépatite C, ce qui est quand même fantastique.
Oui, mais je vais mettre 2 mais ça coûte cher.
Ah ben, c'est des petits traitements qui sont pas donnés, Denis Martin, tu sais, enfin oui, c'est sûr qu'il fallait qu'on en parle.
Je suis allé faire une petite recherche aussi, oui.
les traitements, dans le fond, sont issus, c'est sûr que c'est des études cliniques qui ont été très longues, c'est pas des études cliniques qu'on peut pondre en 6 mois.
Ouais.
C'est des études cliniques qui se sont échelonnées sur... Il y en a même qui sont toujours en cours après 15 ans.
Mais on parle d'à peu près 50 000 $ pour 3 mois.
Dans les moins chers, on parle au Québec, puis on reste dans la région du Québec au Canada, on parle de 35 000 dans les moins chers, les plus dispendieux peuvent aller jusqu'à 120 000 $.
Bon, ça va avoir une bonne assurance médicale.
En moyenne, les traitements sont entre 50 à 65 000
$. Alors, toutes les hépatites, on peut les traiter, là, à peu près.
L'hépatite A, l'hépatite E, on parle de résorption, soit de guérison spontanée, dans la plupart des cas. Hépatite B, aussi. L'hépatite C, là, celle qu'on vient de se parler, où c'est un contact sans sang avec un sang à sang, puis un traitement très dispendieux de plusieurs dizaines de milliers de dollars, 15% des personnes, plus ou moins 15% des gens qui s'infectent à l'hépatite C ont une guérison spontanée. C'est quand même pas si pire. L'hépatite D, je m'en souviens plus, c'est une grande famille. Ouais. Puis l'hépatite G, 1 à 4% des personnes au Canada seraient peut-être porteuses de ce virus-là, puis mais qui serait pas dommageable là, à long terme là, de mémoire.
Bon, alors, l'hépatite C, ça revient dans l'actualité. Pourquoi?
L'hépatite C revient dans l'actualité parce que c'est quand la dernière fois que tu es sorti du Canada, Denis Martin?
Ben, il n'y a pas longtemps. Je parle pas beaucoup. Je suis allé au Mexique, mais je parle pas beaucoup de mes vacances en
non.
public. Ouais.
Ok, ben c'est correct. J'en parle parce que je vais prendre les miennes éventuellement. Très bientôt, même d'ailleurs. Quand on regarde la ville de Vancouver, quand on regarde la ville de Toronto, San Francisco, New York, Chicago, Miami, dans les grandes villes des pays industrialisés, puis même dans les pays. Des pays en voie de développement puis des pays du tiers ou du quart monde, il y a beaucoup de drogue. La vie est de plus en plus difficile, la qualité de vie des êtres humains est de plus en plus serrée. On nous tasse dans des espèces de où ce qu'il faut travailler, dormir, travailler. Ça stresse beaucoup d'êtres humains, puis c'est pas tout le monde qui est capable de se caser dans ce petit moule-là. Il y en a plusieurs qui se tournent vers les drogues dures pour se soulager du mode de vie qu'on
a. Drogue dure par injection, donc on augmente les risques.
Oui, bon, écoute, là, j'allais trop. Je faisais trop le tour du pot.
Mais c'est parce que je veux t'amener, donc, parce qu'on voit une certaine recrudescence, puis on demande...
La recrudescence vient un peu avec l'itinérance, le fait qu'on a plus... En plus de gens qui sont accros à des grosses drogues dures, à l'itinérance, aux difficultés de la vie en général, dans les problèmes de toxicomanie, le partage d'aiguilles et de matériel d'injection qui pourrait être utilisé par quelqu'un, puis qui serait juste... l'autre personne à côté réutilise le même matériel pour se réinjecter des drogues, c'est une contamination par objet inanimé. On peut pas s'injecter une drogue avec une aiguille puis reprêter son aiguille à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas juste les hépatites qu'on peut transmettre. On parle de
plein d'autres affaires.
Ouais, exact.
Donc, les gens vont de plus en plus se faire... dépister?
Le dépistage va en faire partie. Au Canada, à l'heure actuelle, en 2019, on parlait de un peu plus de 9000 cas. En ce moment, les nouveaux cas sont un peu à la baisse. Il y a des cas de réinfection, des gens qui ont pris un traitement curatif, ont guéri, ont rejeté dans la drogue, se réinfectent. Les personnes lesquelles on essaie de plus cibler sont les personnes de 55 ans et plus.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'ils ont connu les bonnes années des années 60. Il y avait de la bonne drogue à cette époque-là. C'était pas coupé avec tout le stock d'aujourd'hui. Ils auraient pu utiliser du matériel injectable, se l'apprêter. Puis les transfusions sanguines, les mamans qui ont accouché dans les années 80, qui ont reçu des transfusions sanguines, auraient pu être contaminées à divers types d'hépatite C ou d'hépatite à ce moment-là.
Wow! Ben, on a beaucoup de matériel pour réfléchir dans les prochains jours. Merci, Jean-Jacques Grenier.
Faites-vous dépister contre l'hépatite C.
Merci beaucoup. En deuxième partie d'émission, Sisyphe de Victor Pilon qui part pour Amsterdam. Et trois titres qui parlent de fluidité de genre et sexuelle à la chronique Lire, c'est queer avec Brian Saint-Louis.
Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Au sommaire de cette deuxième partie, trois titres qui parlent de fluidité de genre et sexuelle à la chronique Lire, c'est queer avec Brian Saint-Louis. Mais avant, Sisyphe de Victor Pilon par Amsterdam. Vous vous rappelez sans doute de la performance de Sisyphe par Victor Pilon. C'était au Stade olympique, c'était en 2021. Pendant 30 jours, à raison de 6 jours par semaine, 7 heures par jour, Victor a transporté à l'appel, en tout et partout, 30 tonnes de sable. Il n'y avait pas 300 tonnes de sable, il n'y avait pas 300 tonnes à tous les jours, mais ça a donné ça comme travail, en construisant et en déconstruisant sa montagne. Il y a un film qui a été fait là-dessus qui, lui, a clôturé le Festival international du film sur l'art à la fin mars. Et cette œuvre, entre autres, a été couronnée par le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal en 2021 et sélectionnée parmi les 10 meilleures productions de l'année par le Globe and Mail. La performance marathon de Sisyphe de Victor Pilon sera reprise très bientôt au prestigieux Holland Festival à Amsterdam. Salut Victor!
Bonjour, bonjour. Vous avez fait tout un résumé.
Ben, il fallait bien, là, pour qu'on se comprenne bien par où ce qu'on allait. Alors, cette émission ici, on demande toujours, lorsqu'on a un nouvel ou une nouvelle invitée, de nous dire quel pronom et quel accord tu utilises.
Quel pronom et quel accord que j'utilise?
Oui, j'imagine que c'est masculin, c'est ça?
Oui, oui.
D'accord. Alors, allons-y. Pourquoi tu as repris, en fait, parce que Sisyphe, là, on va revenir tout à l'heure là-dessus, c'est inspiré de l'essai d'Albert Camus. Pourquoi tu as repris ça et qu'est-ce que tu en as fait?
Mais j'ai une obsession, premièrement, pour la mythologie. Je crois que la mythologie représente une tentative d'apporter des réponses à la question du sens de la vie bonne pour les mortels. Et puis, pour moi, les mythes sont la préhistoire de la philosophie. Et Albert Camus a abordé dans un essai philosophique, on connaît surtout Albert Camus pour ses romans ou ses pièces de théâtre, mais on connaît peu pour ses essais philosophiques. Et il a fait un essai philosophique sur le mythe de Sisyphe en disant que c'était une métaphore de la condition humaine. Et cette obsession pour les mythes, et quand je suis tombé sur Albert Camus, j'ai trouvé l'encre, le sens de la performance. Alors, c'était vraiment l'origine là, de ce projet.
Qu'est-ce qui a particulièrement inspiré cette œuvre pour toi?
J'ai eu le décès de mon conjoint de 20 ans, et j'ai voulu, par cette performance, comprendre l'absurdité de sa disparition dans ma vie et de faire l'expérience de l'absurde. Je pense qu'on cherche éternellement de trouver un sens, puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'ultime raison pour notre existence. Alors, Albert Camus, dans cet essai-là, un peu m'a accompagné dans mon deuil, m'a donné un peu des réponses, soulagé un peu cette douleur. Alors, cette performance-là, c'était vraiment pour faire l'expérience. Et cette montagne de sable, qui était composée de 50 tonnes, pour moi, on se souvient que le mythe de Sisyphe, c'est ce personnage qui pousse un rocher sur le sommet de la montagne, qui retombe sur l'éternité, et puis il doit constamment recommencer. Et pour moi, ce rocher-là, je me suis dit, s'il tombe sur l'éternité, il va se fracasser, il va devenir de la pierre, il va devenir de la poussière, du sable. Alors, pour moi, le rocher de Sisyphe était cette montagne de sable de 50 tonnes.
Oui, alors je vais réexpliquer ce que tu faisais, c'est que tu construisais et déconstruisais cette montagne, finalement, à chaque jour, là.
Oui, à chaque jour, je déplaçais d'un point A à un point B, cette montagne-là, et une fois que je l'avais transportée d'un côté, je recommençais. Alors, c'était de vivre, de faire l'expérience. L'éternel retour, la répétition, et je pense qu'on peut tous un peu s'identifier à ce mythe-là. On se pose la question, parfois, le matin qu'on se lève, ça sert à quoi, dodo, métro, boulot? Et Albert Camus nous dit que même dans la répétition, on peut trouver une certaine paix, on peut être créatif. Alors Sisyphe, même s'il reprend constamment la même chose, il peut être créatif et il peut trouver du bonheur malgré dans la répétition.
Donc, tu traces un parallèle avec ça et la mort de ton conjoint. La question que je me pose, est-ce que ça t'a aidé personnellement à passer... On passe jamais au travers, mais on... parce que perdre quelqu'un, c'est quand même quelque chose d'épouvantable. Mais est-ce que ça t'a aidé dans ton deuil?
Oui, ça m'a donné le courage de faire cette performance-là, de me dépasser. Je suis plutôt un introverti, alors me mettre sous les rampes de la lumière, c'était un peu kamikaze pour moi. Alors, ça m'a permis de vivre quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose unique. Dans la vie d'un artiste, il y a peu de choses, des fois, qu'on fait des œuvres qui touchent l'âme des gens ou le cœur des gens. Et c'est très rare quand ça arrive, et c'est très précieux, et cette œuvre-là m'a permis d'explorer quelque chose de totalement différent que j'avais fait par le passé.
Je vois, tu me corriges si je me trompe, moi je vois un parallèle aussi avec le combat de nos communautés queer, l'éternel recommencement, c'est un peu cette absurdité du débat qui recommence à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui nous ramène 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, est-ce que tu vois ça toi aussi ou c'est juste moi qui vois ça là?
Non, non, vous avez totalement raison. Je veux dire, on répète toujours les mêmes erreurs et on répète toujours l'histoire est là pour nous faire rendre compte de tout ça. Alors, il y a une absurdité dans ça. Et il faut, en quelque part, accepter cette absurdité-là ou se révolter. Et je crois que l'art a un peu cette raison, soit pour nous pousser à réfléchir, à nous donner des pistes pour qu'on devienne des meilleurs humains, plus ouverts, plus tolérants, plus humains. Et dans le monde dans lequel on vit présentement, c'est excessivement difficile. C'est parfois très décourageant, là. Alors, il faut se combattre, il faut se révolter, il faut s'indigner, je crois, par rapport à l'injustice. Et oui, c'est tout un défi qu'on a devant nous.
Oui, je suis allé te voir lorsque tu étais au Stade olympique. Et puis, je me rappelle, je regardais, je me disais, mon Dieu, 50 tonnes de sable. Et là, c'est parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est 300 tonnes en tout parce que tu les as montées, démontées. Puis, bon, même si ça prenait quelques jours en faire un, on se rend compte que tu as déplacé en tout et partout 300 tonnes de sable. C'était dur, ça, physiquement?
Physiquement, oui, c'était particulièrement difficile. Mais on arrivait, j'arrivais, puis quand j'avais un public, la douleur disparaissait.
Ah oui.
Alors, il y avait pas de... Alors, il fallait composer avec ça. Le plus difficile, c'est quand il y avait un moment entre 5 heures et 6 heures, il y avait comme un creux, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et c'est à ce moment-là que je sentais vraiment la douleur, l'absurdité. Je vivais vraiment l'absurdité, me demandant qu'est-ce que je fais ici. Et je devais me rappeler pourquoi je le faisais et pour qui je le faisais. Et ça soulageait un peu l'effort physique et l'effort aussi psychologique. Mais cette rencontre que j'avais pas prévue, c'était cette rencontre-là avec les gens, oui. Parce que je partageais ma pelle avec les visiteurs. Et c'est très rare qu'on a ce contact-là très, très, très intime avec les gens. Je touchais les mains, on était à quelques pieds de l'un de l'autre, et on se regardait dans les yeux, et à 70%, 80% des gens se mettaient à pleurer. Alors, c'était aussi un exutoire pour eux, un exutoire de leur peine, de leur frustration, de leur révolte, même de leur bonheur. Alors, ça, j'avais pas prévu cette rencontre-là avec le public, et ça, c'était vraiment inouï.
Donc, ça aide un peu à soulager et la peine physique et la peine morale.
Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il y avait une dimension un peu thérapeutique aussi, je pense, pour le public qui pouvait facilement se réveiller. Et puis, tu sais, comme tu en as fait l'expérience,
oui.
Il se passe pas grand-chose. C'est un gars qui pèle, là. C'est mm-hmm. plutôt inintéressant. Mais même dans cette action de répétition, je crois, le lieu avec une ambiance sonore, avec l'éclairage, il y avait quelque chose de... Pas de sacré, mais pas religieux, qui faisait un peu une introspection, je pense, une contemplation, quelque chose d'introspectif, et puis les gens étaient... Il se passait rien, mais il se passait de quoi.
Bon. Alors là, tu n'as pas refait cette performance, si j'ai bien compris, depuis, mais là, tu t'en vas en Hollande. Comment c'est arrivé tout ça?
Ben écoute, il y a des gens assez fous qui...
qui vont transporter 50 tonnes de sable jusqu'en Hollande ou en Oscar continue?
parce que ça nécessite quand même un espace intéressant. C'est un grand festival où on montre beaucoup de la performance. Il y a un artiste, la sommité des performances de la planète, qui est Maria Abramović, qui est une Serbe qui vit à New York, qui a fait une performance au MoMA. Alors, il y a deux artistes qui sont présentés au festival, il y a Maria Abramović et moi-même. Alors, je suis tellement honoré. Et les conditions que le festival m'ont donné, l'espace qu'ils m'ont donné, je suis allé visiter et je pouvais pas refuser.
Et ça,
alors,
Mais ça, c'est du 16 au 28 juin. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où c'est encore en négociation?
J'y vais une fois, une performance à la fois, un lieu à la fois. J'ai quand même 66 ans.
Ah oui.
Alors, je dois voir comment mon corps va supporter et vivre et comment je vais émotivement et physiquement le vivre. Je suis très curieux de voir un public de festival, un public européen aussi, comment ils vont, quel échange que je vais avoir, et est-ce que je vais retrouver ce que j'ai vécu à Montréal. Possiblement, ça va être différent, mais je suis très curieux. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'universel de toute façon dans le mythe.
Je terminerai en parlant de ce film qui a quand même clôturé là, le Festival oui. des films de l'art. Alors, parle-nous du film qui a été fait sur cette performance.
Bien, le film, c'était assez audacieux de voir comment qu'on peut transposer une performance à l'écran. Et je l'ai présenté à des gens qui ont fait l'expérience de la performance et des personnes qui ne l'ont pas vue. Et les personnes qui ont fait l'expérience ont dit ils ont retrouvé la même émotion, ils ont revécu ce qu'ils ont vécu là en présence. Et ceux qui n'y étaient pas, souvent m'ont dit j'ai reçu beaucoup de ressenti beaucoup d'émotions et je regrette de n'avoir pas avoir été. Alors c'est un film quand même de lent. De longs plans séquences, parce que cette performance est quand même 182 heures de performance. Alors, c'est un film de 64 minutes, et puis qui est dédié à des festivals comme le FIFA, des festivals sur des films d'art. Alors, on verra où le film ira pour partager cette expérience.
Bien, Victor Pilon, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci infiniment de votre intérêt. Merci.
Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Silence, s'il vous plaît, dans la bibliothèque.
Lire, c'est queer, avec Brian Saint-Louis.
Allô, Brian, à Québec, comment ça va?
Bonjour, Denis Martin à Montréal, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Hey, on a trois titres aujourd'hui, on en a pas mal à raconter. Alors, allons-y oui. tout de suite. Fouol de C. Poirier, c'est publié chez Triptych. Je l'ai lu. Moi, ça m'a beaucoup touché. Je sais pas comment t'as vécu ta lecture.
Oui, C. Poirier, Fouol. Ben, dans la collection Queer de Triptych, il faut mentionner, si les gens ne connaissent pas cette collection-là chez Triptych, ils font toujours beaucoup d'efforts pour mettre de l'avant des écritures queer. Des auteurs queer, des textes queer, c'est-à-dire qu'ils osent beaucoup, donc toujours très intéressant ce qu'ils font. Si Poirier, un cri littéraire poétique, je dirais, oui, ça, on est un peu happé par cette écriture-là. Si Poirier qui nous parle de transphobie, de violence, notamment médiatique, qui sont subies par les personnes queer, par les personnes trans, un texte là, poétique qui veut ébranler un peu la cisnormativité. C'est un état des lieux. On parle beaucoup de mots haineux, de choses qui se passent. Donc, on va avoir dans le texte là, des listes de mots haineux qu'on utilise. On va avoir une liste de victimes de transphobie, d'intolérance. On sent aussi un appel un peu à la révolte pour les personnes queer, pour les personnes trans. Comment je vous dirais ça? Dans ce souffle-là, on sent que c'est vraiment un appel au fait qu'il y a comme encore trop de violence, trop de morts, mais qu'il y a de l'espoir dans ce livre-là. On est vraiment dans le souffle, on est vraiment dans l'espèce de prise de conscience. C'est une autre belle façon d'écrire le combat des personnes trans.
Tu vas me permettre, je vais juste lire deux vers, parce qu'ils sont vraiment, quand tu parlais là, de cette violence qui est quand même mise de l'avant par certaines chroniqueurs, chroniqueuses ou chroniqueureuses, parce qu'on reviendra là-dessus, parce que s'ils utilisent beaucoup la langue non-genrée. Mais voici. « Vos chroniques pourrissent le ciel, des rochers jaillissent de vos bouches, vous encouragez l'horreur, dépliez les pans de la lumière humaine, de la misère humaine. »
Oui, c'est ça. On cible certains chroniqueurs qui font des textes. Quand je disais au début là, des violences médiatiques que vont ouais. subir les personnes trans, les personnes queer, C'est un peu le point de départ de ça, de questionner un peu pourquoi cette haine-là, ces textes-là. On cible des personnes un peu plus directement. À la fin du livre, on va imaginer des réponses que ces personnes-là auraient pu faire pour s'excuser auprès des communautés par rapport aux textes qu'ils ont publiés. Mais oui, un texte plein de fougue, vraiment plein de force, alors que la couverture, elle est toute douce, elle est toute rose, il y a des petits lapins dessus. On pourrait penser. Un texte un peu plus doux, mais pas du tout. On est vraiment comme dans une quête dans ce livre-là. Et de voir ces pages le remplies de noms de personnes qui ont été victimes de violences, reste que de voir cette accumulation de noms-là, ça reste marquant. Donc, c'est bien de voir les personnes queer, utiliser aussi la poésie pour continuer leur combat. Ça se lit rapidement et c'est intéressant de découvrir cette plume-là, Six Poiriers, comme je vous le disais, chez Triptyque. Dans la collection Queer à découvrir. Vous le reconnaîtrez à sa petite fée sur la couverture.
Oui, tout à fait,
Et
tout à
vous
fait.
le verrez.
Alors, l'autre livre dont tu veux nous parler, c'est Emilia. Là, il y a un trait d'union entre Emily et Ia. Une bande dessinée de Pierre Jungling chez L'employé du mois. Ah, ça,
Oui,
j'aime
mais.
beaucoup le nom de la maison d'édition. Je ne l'ai pas lu celui-là, je ne l'ai pas encore reçu, mais allons-y.
Ben oui, une maison d'édition que je ne connaissais pas non plus, un auteur que je ne connaissais pas. Oui, je vous parle de plein de styles aujourd'hui, de plein de choses. C'est la fin de saison, j'ai une table de chevet bien pleine, donc j'essaie de faire plein de suggestions tout en même temps. Et Emilia, ben, une bande dessinée, c'est aussi un petit livre qui va se lire rapidement. Pierre Jungling, c'est un auteur allemand qui nous présente cette bande dessinée-là. Commence un peu de façon le classique, je vous dirais, jusqu'à un certain point. Le personnage principal a été assigné fille. Et là, il attend sa mastectomie, le début de sa nouvelle vie qui va commencer. On sent vraiment que c'est un événement qui l'attend. Donc là, au début, on va parler de son rapport avec son corps, de ses seins qui l'ennuient. On voit ses rencontres avec son psychologue. Le psychologue parle pratiquement plus que lui dans ces rencontres-là, mais on sent qu'ils s'acheminent assez vite, qu'ils vont vers la transition. Et sinon, il nous parle un peu de sa vie quotidienne. Donc là, le personnage principal. Il est étudiant, il est en résidence, il fréquente son meilleur ami non binaire qui s'appelle Harry, qui est une personne vraiment très militante, qui va avoir beaucoup d'impact dans sa vie à lui. Et là, dans la résidence, on lui assigne, en plus de son sexe, on lui a aussi assigné un coloc, qui est une coloc, c'est une fille qui s'appelle Lisa, qui est une fille qui a un copain avec qui ça va pas toujours bien. Elle est ouverte, curieuse, un peu mal informée quand même par rapport aux réalités que va vivre Emilia. Et là, elle veut avoir aussi une opération pour ses seins, mais c'est pour les grossir. Et puis là, elle trouve ça donc bien drôle que les deux veuillent vouloir des opérations pour les seins au même moment. Donc là, ça va semer un peu la confusion entre les deux parce que tu comprends pas ce que je vis, c'est pas ça, c'est pas juste une histoire d'avoir des seins plus gros et ainsi de suite. Bref, donc au début, on est un petit peu dans ces anecdotes-là. Et là, c'est dur de se rendre assez loin sans dévoiler de punch sur ce qui va se passer dans cette histoire-là, parce qu'il y a vraiment une deuxième partie où on va complètement. Ben, on va dans la même direction, mais c'est beaucoup plus profond. Je voulais la quatrième de couverture. Le personnage principal dit à un moment donné, c'est quand même assez fou qu'on puisse être aussi certain d'une décision. Il parle de sa mastectomie, certain qu'on ne pourra pas changer d'avis. Alors que s'il y a un truc qui est bien certain dans la vie, c'est bien le changement. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce
Ben,
personnage-là.
j'ose croire qu'on va aborder la détransition, qui est un
Voilà.
sujet délicat, mais moi, ça ne me dérange pas qu'on en parle ici, là, parce que c'est important d'en parler.
C'est ça, mais comme lecteur, je dois dire, moi, oui, puis alors que c'est des réalités qui sont quand même très loin de moi, mais je vais quand même dire que quand on est rentré dans ce sujet-là de la détransition, j'ai pas su comment réagir comme lecteur. Puis je vais inviter les gens, ben, à lire cette bande dessinée-là pour voir un peu comment ils se sentent. Puis tout ça, après avoir vu, il n'y a pas beaucoup de semaines, le grand reportage d'enquête sur les détransitions, justement. Donc, on est un peu dans cette
Un reportage qui, à mon avis, est assez discutable pour son approche journalistique parce qu'on a pris des cas isolés et on en a fait des cas d'espèces, là, mais c'est ça, oui.
Ben, c'est ça. Et justement, dans le livre, je vous parlais de son meilleur ami qui est aussi militant, puis il va dire, mais mon Dieu, on va utiliser ton cas unique comme cas d'espèce pour dire que la transition, et ainsi de suite. J'ai trouvé qu'on pouvait le voir de deux façons. Emilia va se questionner par rapport à ce qui lui est arrivé. Et puis là, oui, il y a des gens à qui ça convient tout est bien, mais elle, ben c'est ça. Soit, ça nous amène dans le spectre. Donc, de dire, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il va avoir sa mastectomie, mais en même temps, il ne se sent pas tout à fait femme. Là, ça va nous amener à parler de stéréotypes de genre, de santé mentale. Il y a une façon positive d'analyser tout ça. Je parlais avec son rapport avec son psychologue au début, qui parlait beaucoup plus, qui le laissait parler lui. Donc, il y a toute cette... et de voir sa réalité à la fin, de voir justement qu'on est dans un spectre où tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, qu'est-ce qui s'est passé, ça aide à réfléchir. Mais oui, ça peut être aussi questionnant de voir ce personnage-là dire, ah, ben finalement, je vais détransitionner. Ça peut avoir ça peut donner des armes à ceux qui se posent des questions, mais en même temps, oui, ça met de l'avant l'importance d'avoir un suivi qui est bien fait au moment de transitionner.
Oui, puis c'est un problème. Les personnes qui veulent embarquer dans un processus de transition ne sont pas nécessairement bien suivies tout le temps. L'accès aux soins, c'est difficile, même ici au Québec. Bon, c'est un peu ce qu'illustrait au départ le reportage d'enquête, qui a pris une bifurcation par la suite, là. Mais puis je pense que ça, c'est important de le dire, là. Ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que ça va pas invalider tous les autres parcours. C'est ça le problème de ce genre de cas-là.
Et c'est ça. Mais la détransition, ça arrive aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ouvrage en nuance, mais c'est ça, moi, ça m'a dérangé comme lecture. Pas dans le mauvais sens, dans mon Dieu, quel mauvais livre, mais ça nous fait réfléchir à tout ce que c'est, ce processus de transition-là, tout ce que ça implique, tout ce que ça peut impliquer, tellement de choses. C'est une bande dessinée, ça se lit excessivement rapidement, mais mon Dieu, qu'on continue de réfléchir quand même au parcours de Émilia dans ce livre-là. Oui, il y a eu enquête, on a continué d'y penser, mais là, d'avoir l'intérieur du personnage, c'est quand même très bien rendu, cette espèce de questionnement qui peut survenir par après. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien compris? Et là, il y a beaucoup de choses dans un tout petit livre, mais moi, je vais vous dire, ça ne m'a pas laissé indifférent, justement. Et je ne sais toujours pas exactement comment le prendre, mais lecture intéressante quand même, et c'est spécial de voir ce thème-là quand même abordé dans une bande dessinée.
Donc,
Voilà.
Emilia, bande dessinée de Pierre Youngling, c'est l'employé du mois.
L'employé.e du mois,
Oui, point E
oui.
du mois. Oui, c'est sûr qu'en ondes, ça paraît pas tant que ça. Cela dit, il nous reste deux petites minutes à peu près pour parler. Je vais inviter la personne qui a fait la coordination de ce livre-là, de nous donner une entrevue, Chassane Riquez. Sexualité et dissidence queer. Moi, j'ai terminé ma lecture ce week-end. Écoute, c'est un livre que j'ai trouvé très sérieux et fort intéressant.
Oui, ben c'est ça. Invite-le, Chachang Henriquez. Ça risque d'être une conversation super intéressante. Justement, je savais que je n'aurais pas le temps d'en parler beaucoup, mais de vous le résumer tranquillement. Sexualité et dissidence queer, paru chez les éditions du Remue-Ménage. Chachang Henriquez s'est rendu compte, lui, il est dans la sociologie, s'est rendu compte qu'on avait peu d'ouvrages sociologiques qui s'intéressaient aux questions queer au Québec, en français. Il est inspiré par Gail Rubin, qui est une sociologue américaine qui s'est penchée sur ces questions-là. Il a décidé donc de faire ce collectif qui va s'intéresser à beaucoup de questions, des thèmes dans l'air du temps. Un livre qui est né du backlash hétéro-cis-normatif, du courant conservateur. Tu parlais avec ton invité tout à l'heure de ce 20 ans en arrière qu'on nous oblige toujours à revivre.
Oui.
On est un peu dans cette mouvance-là, c'est de réfléchir. Un ouvrage, oui, très sérieux, très dense, mais en même temps, éminemment accessible. On questionne sérieusement les questions bisexualité, plaisir, consentement, BDSM, sexting, polyamour et sexualité, travail du sexe. Tout est là. Ben, tout est là. Ils veulent quand même en faire d'autres livres pour
Oui.
continuer cette réflexion-là. Un ouvrage vraiment excessivement utile, je crois, une pierre d'assise qui va être intéressante pour la sociologie queer au cours des prochaines années. Un livre qu'on doit lire tranquillement et réfléchir. C'est dense, mais c'est documenté, c'est sérieux, c'est bien fait. Beaucoup de points de vue. C'est vraiment une lecture très intéressante pour ceux qui travaillent, qui se posent des questions autour de toute cette mouvance queer LGBT. C'est un livre vraiment à lire. Ça va être très utile pour comprendre tout le
Un
phénomène.
ouvrage de référence. Et moi, je vais faire un commentaire constructif, là. Moi, je pense que c'est un livre qui gagnerait à avoir à la fin, là, tu sais, un lexique de mots puis des références pour retrouver. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je me disais, ah, peut-être qu'un jour je vais devoir retourner là, puis là, je n'arriverai pas à le retrouver. Vraiment, c'est la seule chose qui lui manque. C'est un ouvrage accessible. C'est ça qui est important de dire. C'est n'importe qui ne fait pas ce genre de travail dans la vie va comprendre ce qui est écrit là-dessus. Pas besoin d'avoir un diplôme universitaire pour comprendre.
Oui, c'est ça. Puis je parlais du spectre tout à l'heure, mais de voir tout cet éventail de choses qui concernent la sexualité et les modes de vie et tout. Là. Donc, un ouvrage vraiment fort intéressant à mettre dans vos bibliothèques pour un livre qui va avoir une longue vie, parce qu'on va va y retourner souvent. Voilà.
Et je pense que Chacha parle de faire un deuxième tome à ce livre, alors oui, à suivre.
Au début, le deuxième, peut-être troisième, d'autres déclinaisons. Il y a énormément de choses à dire sur plein de sujets, donc ils vont continuer leur recherche. Et c'est fort pertinent.
Oui, ben moi, j'avoue là, que j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup, Brian Saint-Louis.
Oui, on se revoit dans un mois.
Dans un mois.
Oui.
Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscules, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur.
C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, l'épisode 74 en ce 29 avril 2024. N'hésitez pas à communiquer avec nous, comme vient de le dire Hélène Denis, qui fait ses annonces là, pour notre adresse courriel. Donc, c'est heurciel en un seul mot, @gmail.com. Merci à toute l'équipe, Marie Massé et Godéric Trobe à la recherche. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème. Jolie Hermelette, qui est la chef de contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion sur Canal M, et notre très cher Philippe Lapointe, directeur d'antenne. On remercie aussi Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix et de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là. À la semaine prochaine.